Je sais la chance que j'ai. Hein. Si un jour quelqu'un m'entend me plaindre de mon boulot, il faut absolument qu'il me frappe directement. Parce que j'ai eu, par exemple, j'ai pas quitté mon siège pendant le Federer Nadal de la finale de Wimbledon 2008.
Wow.
J'étais là, sur place. C'est encore à Melbourne. C'est la demi-finale Nadal-Verdasco de 2009. Verdasco, il joue le tennis de sa vie. Je pense que si tu fais un best-of, tu gardes en fait presque tous les points. En fait, j'ai jamais eu cette impression-là. C'est-à-dire que tu es assis à ta place en train de regarder un match de tennis. Et à chaque fois qu'un point va commencer, tu te demandes ce que tu vas voir qui va t'épater encore plus. T'allais avoir un tour de magie à chaque point. La fin de Agassi-Sampras, qui fait partie de l'histoire du tennis. Et évidemment qu'il y a la fin de cette page-là avec Sampras qui finit sur un titre du Grand Chelem, ce qui est complètement fou. Je sais pas si Federer arrivera à faire pareil. Je me demande s'il rêve pas de faire pareil, mais ça me paraît de plus en plus compliqué. Roddick, franchement, personnage aussi qu'on a oublié, qui est génial, quoi, et dont on aimerait qu'il soit plus présent, peut-être médiatiquement, parce que je pense que il a à la fois cette intelligence et il est franc du collier. Il peut être un peu grande gueule. Je pense qu'il ferait du bien un peu au tennis américain ou même international s'il prenait plus souvent la parole. C'est franchement un mec génial. Saffine, ça c'est un de mes souvenirs. Bah tiens, mon premier reportage à Barcelone, il est en train, enfin il explose de partout et il était entraîné par Chesnokov, qui était un sacré personnage aussi, et qui nous avait expliqué, mais moi je lui dis à Marat, si toi cognais balle, moi point dans ta gueule. Il parlait comme ça.
Est-ce que tu as des anecdotes vécues sympas avec Roger, Rafa, Djoko et Murray, qu'on peut inclure également dans le lot?
Écoute, moi pareil, par la force des choses, j'ai eu vraiment la chance de côtoyer Nadal très très tôt. Je suis allé pour la première fois à Manacor fin 2003. Donc il a 17 ans, il a encore jamais mis les pieds à Roland-Garros. Il est déjà quand même 50e mondial, donc on sait très bien qu'il va être fort. Personne ne se doute à quel point. Voilà, j'ai à la fois la chance de me débrouiller à peu près en espagnol et donc de le connaître depuis maintenant 17 ans. Donc c'est sûrement avec lui que j'ai le plus de souvenirs et de contacts et d'interviews. Par rapport à lui, en termes d'anecdote, moi, l'interview qui m'a le plus marqué, c'est en 2012. C'est un moment où les guignols de l'info étaient à fond sur les problématiques de dopage. Et notamment, il y avait eu un sketch à un moment donné où on voit Nadal en voiture la marionnette de Nadal qui se gare à une station-service, qui, pour faire le plein de son véhicule, au lieu de décrocher,
Il fait pipi dedans, non?
voilà, exactement. Et derrière, la voiture, évidemment, repart en trombe. On était à Indian Wells, on avait obtenu une interview de Nadal. Et cette interview, elle s'est faite, pour le coup, dans une voiture qui le ramenait depuis le site du tournoi d'Indian Wells jusqu'à la maison qu'il occupait pendant le tournoi. Allez, il y avait peut-être 20 minutes de route. Et donc, on a commencé l'interview dans cette voiture. Et l'interview, elle a duré 50 minutes, dont les 30 dernières. On était arrivés, en fait, mais il avait demandé à la voiture de s'arrêter pour qu'on finisse cette discussion. Parce qu'en fait, et je l'ai jamais... Là, pour le coup, je l'ai jamais vu autant investi, passionné dans sa façon de répondre aux questions, parce qu'il voulait se défendre. Il estimait qu'il y avait une forme d'injustice dans cette façon de marteler un peu cette thématique. Ouais, c'est un gars à part, Murray, hein. Il a embauché Mauresmo comme entraîneur. C'est vraiment un gars passionnant et qui, je pense, pourrait apporter énormément au tennis dans sa globalité aussi après sa carrière s'il veut s'investir. Vraiment une tête. Mais c'est qu'on approchait des 300 000 abonnés numériques sur ce terrain-là qu'il faut que l'équipe s'installe maintenant de façon pérenne. Mais je pense qu'à l'équipe, on doit être 300
D'accord.
en tout. Ce qu'on disait à une époque, c'est que il y avait pas loin de 10 personnes qui disaient la même équipe parce que le journal était posé dans un club ou dans une salle d'attente et que donc on était entre 2 et 3 millions de lecteurs par jour. Là, je te parle il y a 15 ans, quoi. Alors, ce grand machin qu'on se partageait. Enfin, je sais pas si t'as connu ça. Tu me passes le rugby, s'il te plaît. Tu t'enlevais les grandes pages. Tiens, ah non, je peux pas te passer le rugby. Il y a le tennis derrière. Non, non, bah attends, je finis d'abord. Donc là, erreur de débutant horrible. Je me suis excusé 1000 fois. J'ai dit, putain, Alain, je suis désolé, c'est la honte. J'ai été nul. Je me suis trompé. Je suis désolé. Ah, il avait été méga cool, mais t'inquiète pas, on s'en fout. Alain de Flacieux, c'était James Bond journaliste. C'était la grande classe et tout, cravate et tout, toujours bien sur lui, mais méga cool, quoi. Comme tous les joueurs, c'est dur de se remotiver pour aller dire, alors, comment tu expliques ce qui s'est passé sur le court? Alors, quel a été le moment clé du match? Nous, on n'en peut plus. Ça fait partie du taf, mais c'est pas le truc qui te passionne. Eux, se recevoir ces questions après chaque match. Alors, comment t'expliques ce qui s'est passé sur le court? T'as peut-être pas envie d'expliquer ce qui s'est passé sur le court, mais ça fait partie du taf.